Au 67 rue Wellington Nord ou au 566-2787. Implique-toi à cette radio.
Conditions actuelles, 12 degrés.
C'est pas pire, pantoute.
La musique sur CFLX 95.5 FM.
J'ai un fils enragé.
Ah! Félix.
Il ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir.
T'as-tu des Kleenex?
Non, oui, oui. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas.
Et oui, au grand plaisir de nos invités, oui, Félix Leclerc, avec bien sûr ce thème de l'émission Logement et droit en ce 24 avril 2025. Alors, justement, elle était bien ébahie d'entendre Félix.
Oui.
Marie-Danielle, bonjour.
Allô.
Marie-Ève.
Bonjour.
Alors, de Marie. Et bienvenue à l'émission aujourd'hui. De toute façon, vous êtes habitué aux médias, mm-hmm. et vous avez des belles expériences. Mais j'aimerais commencer, puis je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette reconnaissance du territoire.
Oui, merci. Oui, ben en fait, la reconnaissance du territoire, c'est important pour plein de choses, mais c'est important aussi, surtout pour reconnaître que les systèmes colonialistes, le racisme systémique existent encore. C'est reconnaître aussi que les territoires, en ce moment, c'est des territoires non cédés, donc des territoires qui sont des territoires ancestraux, des territoires des Premières Nations, des Inuits, dépendamment où on se situe. Ici, on est en territoire Wabanaki, le Ndakina. Donc, on veut souligner ça, puis on veut souligner aussi que, justement, tu sais, les conséquences des pensionnats, les 60 scoops, tout ce qui est relié à la disparition, à l'assassinat des femmes autochtones, à la stérilisation forcée des femmes autochtones. Tout ça, ça a un lien avec vraiment une colonisation qui est encore présente. Puis le refus, en fait, du gouvernement de reconnaître le racisme systémique, ça fait partie du problème.
On parle de vos expériences personnelles de femmes engagées. Marie-Ève, tu es une militante depuis longtemps?
Bien, en fait, ça a commencé plus dans un sens individuel, parce que moi, je viens d'une famille conservatrice quand même.
OK.
Une partie conservatrice, une partie libérale. Puis, j'ai pas pu apprendre à jouer du piano parce que moi, j'étais une fille. Mais les gars de ma famille pouvaient.
OK.
J'ai pas pu apprendre à faire des cabanes à oiseaux parce que j'étais une fille. Donc, mes cousins, mon frère ont pu apprendre, mais pas moi. Puis, rapidement, j'ai compris que j'étais pas l'égale des gars. Puis, avec ma tête de cochon, ben je me suis dit, j'ai autant de droits qu'eux. Fait que j'ai commencé à faire des choses un peu au début à l'école, primaire, secondaire, cégep. J'ai commencé à dénoncer l'hypersexualisation des femmes dans les médias. Après ça, à l'université, j'ai continué des implications. J'ai continué des implications aussi dans les organismes communautaires féministes. Puis à l'université, ben c'est ça, j'ai eu le privilège de pouvoir donner des coups de main par la facilité que j'ai à parler. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ben on aimerait ça travailler avec toi pour défendre, par exemple, les conférences du GATUS auprès de maisons de jeunes, des pharmacies, donc les services offerts aux personnes trans et non-binaires. Puis, c'est ça. Puis là, dans les dernières années, la maladie s'est installée dans ma vie. Puis là, j'ai vécu d'autres oppressions. qui sont différentes, mais qui sont très complémentaires. Parce que maintenant, je suis une femme en situation de handicap, pauvre, mais j'ai tout mon background féministe pour dire, pour avoir la lecture, en fait, qui fait que non, je suis pas seule là-dedans. Puis oui, les politiques peuvent changer s'il y a de la volonté politique, et non, je me tairai pas.
Marie-Danielle aussi était impliquée depuis... Mais j'écoute ça, puis je me dis... t'es beaucoup plus jeune que moi, toi, là. Puis
oui.
Moi, je l'ai entendu. On dirait des fois qu'on recule.
Oui, absolument.
D'accord avec ça, Marie-Danielle? On n'avance pas, hein?
Ben...
ton implication le montre bien. T'es très engagée depuis des années. Moi, je te connais depuis que...
Ça fait 20 ans, là, qu'on se connaît.
Oui.
Des reculs. Est-ce que c'est des reculs? C'est statu quo, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est la théorie des petits pas, là. Je pense qu'il y a des avancées, puis il y a des reculs, effectivement, dépendamment où on se situe. Il y a surtout des reculs pour les populations les plus vulnérables, les plus marginalisées, puis pourtant, c'est celles-là qui auraient besoin de le plus d'avancement possible. Moi, j'ai commencé à militer beaucoup dans le mouvement étudiant, là.
D'ailleurs, aujourd'hui, solidarité avec...
l'ensemble de la population étudiante en grève aujourd'hui, bien sûr.
Et tu as été très impliquée là-dedans, toi, là,
grève, en 2012. Ben, 2012, mais 2005 aussi.
Oui, c'est vrai, oui.
Ouais, moi, j'ai vécu deux GGI. Mais aussi beaucoup dans le mouvement communautaire féministe ici à Montréal. Fait que, voilà.
Parce que ça, tu viens d'un aussi... d'une famille conservatrice libérale, non?
Non, moi, je viens d'une famille... comment la qualifier? Une famille engagée, là, okay. dans sa vie. Ma mère était très féministe.
Bon, OK. Bon,
ma mère était infirmière, puis c'est ça, elle a fait la grève et tout ça, là. Donc,
okay.
Une femme engagée, fait que je m'inspire de ma mère.
Et aujourd'hui, bien sûr, vous venez au nom, entre autres, de vos engagements nombreux comme tel, pas le collectif, pas une de plus. Mm-hmm. Et tout à l'heure, justement, je parlais avec un de mes confrères, quand j'ai dit j'ai deux invités, puis j'ai nommé l'organisme, il dit quoi ça? Mm-hmm. Bon, alors c'est... Donc, ça veut dire que ça vaut la peine d'en parler.
Absolument.
Alors, c'est quoi ça, comme dirait le gars?
Bien, en fait, c'est pas un organisme, c'est vraiment un mouvement, une collective citoyenne qui rassemble des féministes en action contre les violences faites aux femmes. On sait, faites aux femmes et aux personnes à la croisée des oppressions. Au début, en 2024, on s'est rassemblés au coin d'une rue pour dénoncer des féminicides alors que les médias en parlaient presque pas. Puis on se disait, voyons, tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Fait que là, on a commencé à se mobiliser ensemble. Puis nos actions sont vraiment politiquement orientées vers la déconstruction des systèmes de domination, tels que le patriarcat et le capitalisme. Puis, tu sais, on a vraiment une lecture intersectionnelle des luttes, là, et transinclusives. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, on veut plus. Tu sais, on a plus à dire que seulement dénoncer les féminicides. C'est ça. Puis on est vraiment une collective citoyenne. Donc, on n'est pas un organisme communautaire ou une organisation légalement constituée. On s'organise par et pour les personnes concernées. Voilà. Donc, c'est elles-mêmes qui décidons de la manière dont les décisions se prennent, des orientations. Puis, la collective se veut un endroit safe pour les féministes qui voulaient se mobiliser, mais qui ne trouvaient pas de lieu pour le faire. Puis, c'est une collective qui est ancrée quand même à partir de nos savoirs expérientiels, mais aussi par la force de nos féminismes. Puis, dans le fond, à partir de nos réalités. Donc, dans la collective, on retrouve des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, familiale, sexuelle, économique, psychologique, systémique, judiciaire, médicale, gynécologique, obstétricale, policière, classiste, capacitiste, plein de discriminations basées sur le genre, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, la classe sociale, la pauvreté, on peut continuer le contrôle.
C'est assez inclusif quand même.
La liste est super longue.
Oui, la liste est longue et ce qu'on se rend compte, c'est que on est 6 personnes dans la collective et la liste n'est pas finie.
OK, vous êtes 6 actuellement.
Oui, en ce moment, on est 6. Puis cette liste-là, en fait, qui est en fait d'une page, là, ouais. Tu la vois. Cette liste-là, c'est juste nous deux.
Ouais.
C'est juste ce que nous deux, on a vécu dans notre petite vie, tu sais.
Okay.
Puis le but de faire cette énumération-là, en fait, ça va sortir dans un article d'Entrée libre. Le but de sortir ça, c'est de dire que nos savoirs expérientiels valent tout autant que des savoirs de personnes qui ont étudié ou qui sont professionnelles ou qui représentent un organisme, ou etc. Parce que ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a très, très peu d'endroits où, premièrement, où on peut s'impliquer. Deuxièmement, où... on peut participer gratuitement.
Oui,
aussi. Troisièmement, où on est réellement écouté et où on est pris au sérieux. Parce que, effectivement, on n'a pas de chapeau. Tu sais, on est seulement, entre guillemets, citoyen.
Oui. Ouais.
Donc, c'est comme si notre parole valait pas grand-chose, alors que la parole des femmes, des féministes, des personnes à croiser les oppressions, devrait être celle qu'on entend le plus et qu'on écoute le plus dans ce qu'on fait comme politique.
Et c'est né depuis combien de temps, ça, c'est, que c'est né?
La collective?
Oui.
À peu près juin 2024.
OK, donc c'est...
C'est assez récent.
Oui.
Puis on s'est vraiment inspiré, comme Ariève l'a dit, du trop grand nombre de féminicides. Tu sais, en 2024, il y a eu 25 féminicides. C'est atroce. C'est plus de féminicides que pendant la pandémie.
Oui, parce qu'on a mis sur la pandémie plein de choses. Hein, ça coûte la pandémie, ça coûte la...
Ouais.
Ben, finalement, la pandémie est finie, puis ça...
Exact. Puis ça continue d'augmenter. Puis ça continue d'augmenter et on en parle de moins en moins.
Oui.
Depuis janvier 2025, il y a eu 4 féminicides. Ouais. On en a très peu entendu parler. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on entend très peu parler des féminicides des femmes autochtones.
Oui.
Puis quand on en entend parler, ça fait déjà 3-4 semaines que c'est arrivé.
Puis il y a eu les femmes autochtones disparues et puis assassinées.
Oui.
Et tout le monde s'est engagé dans les politiciens. Ah, on va s'en occuper. Et ça impliquait parfois aussi même des gens de la Sûreté du Québec. Hein? Tout d'un coup, par hasard, et ça s'oublie.
Exact.
C'est des rapports tablettés.
Oui.
Tout à fait.
Alors, je pense que non, c'est vraiment important. Puis aujourd'hui, on est le 24, évidemment, je ne vous apprends pas ça, mais il y a une journée, journée spéciale aujourd'hui. Ben, que vous voulez, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles vous êtes là aussi.
Oui, bien, en fait, on a pris parole le 22 avril, lors de la Journée de la Terre, pour rappeler. Et maintenant aussi, on est là aujourd'hui pour rappeler que c'est la journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. Et dans notre lecture féministe, on ne peut pas dissocier la lutte écologique des luttes féministes parce que l'exploitation des terres, l'exploitation minière, l'exploitation textile, l'exploitation pétrolière, c'est lié avec l'exploitation des femmes et des personnes à la croisée des oppressions. On pense, c'est mis au calendrier de la Marche mondiale des femmes depuis l'événement du 24 avril 2013 où il y a eu le Rana Plaza au Bangladesh qui s'est effondré. Il y a eu plus de 1100 personnes qui sont décédées et plus du double qui ont été blessées. Et majoritairement, c'était des femmes qui y étaient exploitées.
Ouais.
Et c'est des systèmes d'exploitation, que ce soit le capitalisme, la grande consommation, le colonialisme, c'est des systèmes d'oppression qui se renforcent l'un l'autre et qui sont souvent main dans la main. Et quand c'est des travailleuses qui travaillent, elles n'y travaillent pas, elles y sont exploitées. Et si elles sont, entre guillemets, seulement citoyennes, ben c'est démontré que, par exemple, il y a plus de violences conjugales, il y a plus d'infections transmises sexuellement et par le sang. Il y a plus de grossesses non désirées. Il y a plus de violences à caractère sexuel. Il y a des traites de femmes qui sont près de ces sites d'exploitation-là. Donc, l'exploitation de la terre, des ressources, vient souvent et pas mal tout le temps avec l'exploitation des femmes et des corps des personnes qui sont à la croisée des oppressions.
Puis c'est pas juste... ça peut nous sembler loin, là, quand on parle d'une journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Tu sais, on peut penser à l'international, mais ici, au Québec, sur la Côte-Nord, il y a des rapports textuels qui ont vraiment, tu sais, des données qui sont quantifiées sur ce que Marie-Ève vient de dire, tu sais, sur l'augmentation de tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est ça, c'est l'augmentation, tu sais, clairement du... De, l'espèce de boom puis la pression qu'il y a dans les villes ou les villages où il y a ces compagnies-là qui s'installent, une gang de travailleurs temporaires qui s'installent, ça fait aussi un boom sur... Ouais. Une pression sur le logement, une pression sur les places en garderie, une pression sur tout. Fait que ça veut dire qu'il y a moins de logements pour la population, moins de places en garderie, moins de tout aussi pour les gens qui habitent ces régions-là. Ouais. Fait que... C'est ça. Fait que ça fait une grande pression là-dessus. Puis, tu sais, quand on parle de justice climatique, puis que nous, on parle de justice climatique féministe, ben c'est aussi de mettre au centre de cette lutte-là, en fait, les femmes, puis nos savoirs expérientiels encore là. Parce que, à l'international, puis aussi ici, puis au sud, tu sais, les femmes sont beaucoup dans tout ce qui est agriculture, tout ce qui est responsabilité familiale, tout ce qui est charge mentale, etc. Donc, ils ont beaucoup de responsabilités, puis ils sont excellentes pour s'organiser aussi collectivement, puis d'apporter des solutions novatrices. Donc, c'est important pour nous de les considérer. Puis, tu sais, quand on parle d'exploitation du territoire, puis tout ça, tu sais, en Argentine, le lithium, ben, tu sais, quand on parle de solutions individuelles, mettons, on prend les voitures à essence, puis là, on nous dit, ben, acheter des voitures électriques, mais c'est quand même une solution super individualiste, au lieu de réfléchir à comment qu'on peut faire du transport en commun.
Exactement.
Qui va être gratuit, qui va être accessible, puis qui va donner envie aux gens de prendre ce transport en commun-là, tu sais, puis qui va relier les différentes régions, puis les différents, comme ici, les différentes MRC, puis qui va avoir des horaires qui vont pas être basés juste sur l'horaire de travailleurs de jour, tu sais.
Oui, effectivement.
Puis, tu sais, ça fait en sorte que ça fait aussi de l'exploitation de lithium, où je m'en vais, c'est là. En Argentine, en fait, le lithium, il est extrait des marais, c'est à Catamarca, en fait, pour produire des batteries de lithium pour les voitures. Il y a une entreprise minière qui utilise, juste pour elle, 1 300 000 litres d'eau douce par heure dans un endroit où il pleut même pas.
Bon,
fait que toute cette eau-là, ça vient des glaciers, de l'eau fossile. Fait que c'est comme si on essaie de répondre à un marché qui est comme super demandeur d'énergie, mais qui produit des biens qui finalement sont un peu futiles pour vivre, tu sais. Fait que des exemples comme ça, il en pleut, tu sais, en Argentine, en Équateur, en Palestine. En Palestine, en ce moment, ben, on sait là, le génocide qui est en train de se passer. Ouais. On dénonce avec vigueur. La Marche mondiale des femmes, d'ailleurs, le dénonce aussi. Il y a des femmes en ce moment qui se mobilisent pour la Marche mondiale des femmes en Palestine.
Oui. Et ça, c'est quelque chose quand même dans le contexte.
Oui,
hein?
Dans le contexte actuel, c'est quelque chose. Et ces femmes-là dénoncent justement que l'occupation israélienne en ce moment utilise et contrôle vraiment l'énergie solaire. Parce que, dans le fond, ils ont détruit, à Gaza, entre autres, là, ils ont détruit plus de 90% des projets d'énergie solaire pour essayer d'avoir le contrôle vraiment sur les coupes d'énergie puis le contrôle du carburant, tu sais, comme pour utiliser ça comme arme de guerre. Puis les gens sont en train d'essayer de rebâtir ça parce que l'énergie solaire, justement, ça va leur permettre un petit souffle, tu sais, là-dedans. Mais c'est ça, c'est une des tactiques aussi, tu sais, d'utiliser les énergies fossiles, d'utiliser les énergies, disons, pas renouvelables pour justement continuer le génocide. Je veux dire ça comme ça. Là.
C'est ça, parce que justement, c'est pendant cette journée-là, puis beaucoup de gens ne sont peut-être pas au courant de cette journée-là importante. Puis justement, je me souviens qu'une couple d'années, on avait souligné justement au coin de King et puis Belvedere, puis ben il n'y avait pas de médias qui étaient venus à part Saint-Félix, parce qu'il y avait quelqu'un qui était... La police était à un autre endroit. Mais tu sais, je me dis encore là, tu sais, c'est mis sous... un peu sous le tapis, alors que finalement, c'est des anniversaires vraiment tristes et en même temps aussi qui démontrent le capitalisme qui est présent au-delà. Justement, que c'est les femmes, ce sont les femmes les plus vulnérables qui sont justement marquées par ça.
Puis tu sais, j'aurais tendance à faire attention au mot « vulnérable okay. », parce que les populations, ben les femmes et les populations marginalisées ne sont pas nécessairement vulnérables, mais la société fait en sorte que ces populations-là et les femmes sont marginalisées. En ce sens que on pense, la société est réfléchie en fait pour souvent un homme cisgenre, blanc, qui travaille, qui a accès à un char, qui travaille de 9 à 5, qui a une maison, qui a du cash, qui peut voyager, tu sais. Mais si on tombe un peu en marge de ça, par exemple, un homme queer qui, lui, travaille sur un horaire atypique, puis qu'il n'y a pas de char, il fait comment pour se rendre à son lieu de travail?
Ben oui.
Moi, je suis une personne, puis tu sais, je vais parler seulement de mon expérience, parce que mon expérience, c'est la mienne. Je ne peux pas parler nécessairement des expériences des autres. Mais moi, je suis malade depuis 4 ans. Ça m'a amenée en précarité financière assez importante et en situation de handicap. Et moi, j'ai des rendez-vous pendant la journée.
Oui.
Puis des fois, ben l'heure, tu sais, le système de transport est conçu pour les étudiants et étudiantes de Sherbrooke. Alors,
si t'es en dehors des heures,
c'est plus difficile. Fait que, tu sais, moi, me rendre à mes rendez-vous médicaux, premièrement, maintenant, j'ai accès à la passe solidaire, merci.
Okay.
Mais n'empêche qu'il faut que quelqu'un m'aide financièrement pour que je paye cette passe solidaire. C'est quand même pas peu dire. Mais maintenant que j'ai la passe solidaire, je peux ne plus avoir à me concentrer à faire le dilemme éthique, parce que c'est réellement un choix déchirant. Est-ce que je vais à mon rendez-vous médical pour avoir mon TEP scan à 7h30 le matin ou... je vais à la bibliothèque pour me chercher des livres et faire attention à ma socialisation, avoir des livres gratuits, rencontrer des gens. Et c'est ça, le dilemme que plusieurs personnes vivent. Mais moi, je l'ai vécu. Et c'est notamment pour ça, si je veux penser collectif, je veux un système de transport collectif, gratuit, accessible à tous et sécuritaire. Parce que moi, la dernière fois que j'ai rempli un sondage par la STS, c'est quoi votre sentiment de sécurité sur la route? Ben oui, je vais y répondre. Est-ce que vous êtes conductrice ou est-ce que vous prenez l'auto ou l'autobus? Ben, des fois l'auto, des fois l'autobus, mais moi, je ne peux plus conduire parce que j'ai trop d'effets secondaires de médicaments.
Okay,
je suis pas la seule qui vit des effets secondaires de médicaments. Fait que moi, je suis
passagère.
Merci. Et la poursuite du document me disait, ben, et c'est quoi votre sentiment de sécurité lorsque vous êtes en auto? Et c'est quoi votre sentiment de sécurité lorsque vous êtes en autobus? 7 sur 10 les deux. 7 sur 10 en auto parce que mon conjoint est chauffeur d'autobus. Il conduit très, très bien. Oui. Mais 7 sur 10 dans l'autobus parce que, ben, des fois, je suis victime de... ben, il n'y a pas de place pour moi. Oui. J'arrive pas à me tenir debout. Des fois, les chauffeurs sont en retard sur leur horaire. Puis je les comprends, mais ça fait en sorte qu'ils conduisent plus difficilement.
Ouais.
Moi, c'est difficile de me tenir debout, c'est difficile de tu sais, il y a aussi des regards qui sont intrusifs. Donc, moi, je regarde pas les gens avec un regard, en tout cas, très gourmands. Mais il y en a... Moi, j'ai souvent eu des regards gourmands à mon égard par des hommes dans l'autobus. J'ai eu des attouchements qui sont... parce qu'on est serré dans l'autobus et il manque d'autobus.
Oui, fait que,
tu sais, si on pensait à un transport collectif, premièrement, gratuit, ben oui. Moi, j'aurais pas à avoir cette violence économique-là. Si on pensait à plus d'autobus, probablement que les passagers à l'intérieur, le nombre serait moins élevé. Et donc, il y aurait peut-être moins de possibilités, entre guillemets, que des personnes fassent des agressions cachées. Puis, tu sais, c'est ça.
On va aller une petite pause musicale et aussi publicitaire. On va parler tout à l'heure de la Marche mondiale des femmes, mais on va retourner quelques années en arrière, avec Marie-Claire Séguin et Du pain des roses. Je pense qu'il y a toute une histoire là-dessus.
Ouais.
Ben, il y a 30 ans, vous n'étiez pas bien vieille, vous autres là encore. Là.
oui, j'avais 10 ans.
C'est ça. Alors, c'est ça. Mais il reste que ça avait été aussi, par l'instar justement de Françoise David et d'autres groupes de femmes. Ben, on va écouter cette pièce. Et puis, ben, fort intéressant. Il va falloir revenir parce que une heure passe tellement vite avec nos invités d'aujourd'hui. On y va donc avec pièce musicale, pause, et on revient pour la deuxième demi-heure. L'émission Logement et droit, qui est en direct, bien sûr, 95.5 FM, aussi sur le site Internet. Demain, elle sera en rediffusion sur notre site en balado.
Planté, fixé, installé, assis. Assis sur nos jobs, assis dans nos banlieues, assis dans les écoles, assis dans les symboles, assis. Assis chez le pédiatre, chez le psychiatre, chez le podiatre ou chez la faiseuse de hâte, chez l'inventeur de cœur de plate, assis. Assis au cinéma, assis devant nos pizzas, assis en transférant sur nos chats, assis en regardant nos bas, assis ben bas. Assis dans le cœur obscur d'une église ou assis en contre-jour du cul d'une impromise, assis. Assis dans nos bobos, assis dans nos lotos, assis jusque dans nos dodos, assis de cou cassé, assis écœuré, assis dans l'espoir de se lever ou marcher. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Il nous faut des roses.
Il nous faut des roses, un Il est midi.
30 minutes.
Imagine une émission dans laquelle tu pourras ressentir toute une gamme d'émotions. Au menu, musique classique, instrumentale, populaire et même du hard rock, du punk et du métal.
Viens avec nous pour un fantastique voyage dans les divers styles et le temps. Tous les dimanches de 20h à 22h, en écoutant Décibel Chansons, attends-toi à beaucoup de surprises et trouvailles musicales. Tes animateurs, Jean-Guy Bolduc
et David Lacharité,
n'attendent que toi.
Au début, il y a eu la naissance. Ensuite, il y a eu à apprendre à marcher. Successivement, on a appris à courir. Maintenant, c'est les bombes partout. C'est l'émission Alerte Métallique avec Luc Lainé, le samedi soir de 22h à 1h du matin. C'est pas pire pantoute.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Pas pire pantoute, la radio communautaire de l'Estrie.
CFLX 95.5 FM.
Eh oui, donc, c'est pas pire pantoute. Vous remarquez dans la radio communautaire, mesdames, il y a diverses tendances.
Tout à fait.
Et c'est ce qui fait la beauté de la radio communautaire. Mm-hmm. Je pense pas que vous auriez le même temps dans une radio commerciale, on va dire ça. Là, oui. Salutations à tous les gens du commerce comme tel, parce que c'est ça le but de la radio. Et c'est le but aussi de l'émission Logement et droit, aux deux semaines, de donner la parole, non pas aux politiciens et politiciennes, j'ai déjà eu une émission de politique, mais bon, là, évidemment, tout le monde est gentil. Bon, mm-hmm. Mais là, cette émission-là, on est là pour frapper sur le clou. Et justement, il y a beaucoup de clous encore à frapper.
Absolument.
Alors, parlez-nous encore de ces clous à frapper. Il y a beaucoup de choses que vous voulez aujourd'hui qu'on peut se dire. Mm-hmm. Alors, je vous écoute.
Bien, en fait, si on revient juste à comment la collective sherbrookoise, pas une de plus, est née, tu sais, comme je le disais tantôt, on est née de l'Organisation d'Action Éclair lors de féminicide et on continue cette lutte-là. En novembre passé, on a eu une conférence avec la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes et un moment de création collective.
Je veux juste dire, peut-être pour les actions éclairs, concrètement, là, oui. Ce que c'est que quand il y a un féminicide qui est annoncé, mettons, dans les médias, nous, on se concerte puis on décide d'un moment qui nous convient oui. Là, à toutes. Souvent, c'est comme un samedi midi, mettons, ou tout oui, ça. Oui. Puis là, on a une liste de courriels là, où, à laquelle les gens s'abonner.
Oui.
Merci pour le mot. S'abonner. Fait que là, nous, on envoie un courriel, puis on dit « Allô, on va être au coin de King et Belvédère, oui. de midi à 1h, par exemple. Venez nous voir. » Fait que là, nous, on arrive, on a une bannière, mm-hmm. on a plein de pancartes. Puis on est sur les coins de rue, on pèse le petit bonhomme. Puis on fait les coins de rue comme ça. Les gens sont invités à venir toute l'heure, juste à passer. Les gens passent, prennent une pancarte, ils en font un peu. C'est vraiment, tu sais, nous, on offre, dans le fond, la place avec les outils pour le faire. Mm-hmm. Puis voilà, ça fait comme... Ça fait un moment aussi où on se revoit, où collectivement, on a... Ben, pas, on n'a pas juste l'impression, on fait quelque chose aussi. Ouais. C'est ça, on sensibilise.
On sensibilise, puis des fois, on réfère, puis des fois, présentement, on a même des partenariats qui commencent, fait qu'on va avoir des gens qui vont venir nous soutenir lors de prochaines actions éclairs. Voilà.
C'est comme ça qu'on a eu aussi le Boc et Bière qui a fait « Ah, wow, c'est super votre initiative! Oui. » Fait que nous, on va avoir une bière qui s'appelle « Pas une de plus », puis okay. on va remettre l'argent. Mais en fait, c'est passé.
Ouais.
Mais c'est ça, il y a eu une bière c'est ça, pas une de plus. Puis l'argent a été remis à l'Escale de l'Estrie, qui est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Mais on va avoir un autre partenariat avec eux, là, probablement cet été, pour une nouvelle bière qui va être entièrement pas une de plus, sous forme de canette.
Mm-hmm. OK.
Plus à venir.
Je trouve ça intéressant aussi, l'implication du milieu.
Oui, vraiment, c'est super. C'est super,
Puis, fait que c'est ça, fait que tu sais, de fil en aiguille et à travers les actions éclairs, les partenariats, etc., ben nous, on a décidé de continuer à en faire plus. Fait que au mois de décembre, on a fait une commémoration des 35 ans de l'attentat antiféministe de Polytechnique.
Et non de Concordia.
Non, pas de Concordia.
Non, mais vous vous souvenez un peu de la bourde de notre monsieur Canada bâti à maison. Là.
Oui. Mais non, on s'est concentré sur Polytechnique, on s'est concentré sur les violences colonialistes. On a aussi parlé des violences transphobes, parce que les violences transphobes, il y en a beaucoup, et il y a des meurtres transphobes, et on n'en entend pas parler dans les médias.
Effectivement.
Donc, zéro. Voilà. Puis, c'est ça. Donc, au mois de mars, nous, à la fin 2024, on s'est dit « Hey, 2025, ça va être résolument féministe. Il va y avoir la Marche mondiale des femmes. Oui. » On continue. Fait qu'au mois de mars, on a fait un party de collage féministe pour la Journée internationale des droits des femmes.
Et non de la femme.
Et oui.
Moi, ça m'enrave quand j'entends ça.
Vous n'êtes pas le seul.
Oui, parce que la femme.
Ouais. C'est nos droits.
Ouais.
C'est nos droits. Puis c'est ça, on est même venu parler au micro avec Sylvie.
Oui, je me souviens, on s'était croisés là.
Puis on a continué nos implications, notamment là avec la Marche mondiale des femmes en avril. Donc on a fait des moments de création collective pour le contingent féministe organisé dans le cadre de la manifestation du Jour de la Terre qui était il y a deux jours, et aujourd'hui on est là. On produit du matériel, des tracts d'éducation populaire sur la violence polytechnique, des cahiers d'information sur la Marche mondiale des femmes, etc. Et Marie-Danielle pourra vous parler un peu plus de c'est quoi la Marche mondiale des femmes et qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il y a plein de belles choses, des clous qu'il faut continuer à taper dessus pour que les violences soient sorties.
Parle-nous, justement,
de ça. Je vais vous parler de la Marche mondiale des femmes. En fait, la Marche mondiale des femmes, là, ça a l'air une grosse, grosse affaire, mais c'est une grosse, grosse affaire. Ouais. Et c'est quelque chose qui est né ici, au Québec.
Oui, en plus, c'est
féministes du Québec qui ont dit « Hey, on fait, tu sais, on a fait une marche en 95. » Puis c'était bien le fun, fait que pourquoi pas faire ça à l'international? C'est un tout petit pas. Puis crime, ils ont réussi, puis c'est encore d'actualité, puis ça va faire... Ben, en ce moment, c'est les 25e de la Marche mondiale des femmes. Puis tout ça a commencé justement avec la Marche du pain des roses. Ouais. On a entendu tantôt là, la chanson de Marie-Claire Séguin... C'était en 95, du 26 mai au 4 juin 95. En fait, c'est la coalition des femmes contre la pauvreté qui a été mise sur pied par la Fédération des femmes du Québec à ce moment-là, en 94. Il y avait comme une dizaine d'organisations, autant du mouvement féministe, communautaire, syndical, puis... Tout ce beau monde-là, on fait 9 revendications, entre autres par rapport à la pauvreté des femmes, puis par rapport à la violence, mais surtout la pauvreté. Puis là, je ne vais pas toutes les nommer, mais elles sont facilement trouvables là, sur Internet, puis sur notre page Facebook aussi, puis etc. Fait que tu sais, tout ça, ça a nécessité vraiment une grosse, grosse organisation parce que... La marche des femmes contre la pauvreté du pain des roses, c'était littéralement des femmes qui ont marché de 3 contingents différents de 27 villes. C'était plus de 1500 repas à préparer, 5000 nuitées, une trentaine d'activités publiques. Il y a eu 850 marcheuses. La majorité était inscrite pour entre 2 et 10 jours de marche. Il y a eu une centaine de femmes et d'hommes qui ont joint chacun des contingents pour une journée ou quelques kilomètres. En tout, les marcheuses ont... je m'excuse, je suis comme fourvoyée dans mes affaires. Les marcheuses ont parcouru environ 200 kilomètres en 10 jours avec 3 itinéraires différents. Ouais. Ils ont emprunté 11 routes pour traverser 57 localités.
Quelque chose, hein?
Oui. Puis, tu sais, je veux le dire comme précisément, puis c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de lire une feuille, là, mais c'est impressionnant à quel point cette mobilisation-là a été importante pour le Québec. Mmh. Il y a eu 10 équipes des médias qui ont accompagné les contingents, puis il y a même eu un volet international grâce à la participation de femmes de 14 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud sous la coordination de plusieurs organismes de coopération internationale. Puis le 4 juin 95, ça c'était, mettons, ils ont marché entre le 26 mai puis le 4 juin. Le 4 juin 95, toutes les marcheuses des trois contingents sont arrivées à Québec, devant le Musée du Québec. Puis il y avait 15 000 personnes qui attendaient ces femmes-là. C'est un rassemblement monstre. Mm-hmm. Puis ça a été vraiment, tu sais, dans l'histoire du Québec, là, c'est quelque chose vraiment qui a marqué le Québec au niveau des féministes, mais aussi pour tout ce qui est lutte à la pauvreté, tout ce qui est mobilisation collective. Ces femmes-là ont vraiment pavé la voie, autant celles qui ont organisé, qui ont participé, qui ont mobilisé, etc., qui ont fait des sandwichs. Vraiment, là, toute personne qui ont participé à ça... chapeau.
Mais on se rappelle qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux dans ce temps-là.
C'est vraiment pas,
les cellulaires étaient rares.
95.
Il y a 30 ans, alors.
Ouais. Oui, ça fait 30 ans. Donc, chapeau, vraiment. Puis, voilà. Fait qu'à ce moment-là, en fait, c'était Jacques Parizeau qui était premier ministre du Québec. Puis, ben, c'est ça.
C'est l'année du référendum aussi.
Oui, ben oui. 95.
Ben oui.
Et puis, voilà. Fait que. Il y a eu aussi des gains, tu sais, par rapport à ça. Il y a eu une loi, ça a donné suite, là, après ça, à la loi sur l'équité salariale, entre autres. Mais il y a eu d'autres gains, là, mais là, je pour rentrer dans toute l'histoire. Mais à partir de ça, en fait, après ça, ça a donné lieu, justement, à la Marche mondiale des femmes qui a été créée. La première Marche mondiale des femmes a eu lieu en l'an 2000. Puis dans le fond, à tous les 5 ans, il y a une grande marche mondiale des femmes qui s'étend du 8 mars de l'année jusqu'au 17 octobre de l'année. Fait que, mettons, en 2010. Fait que, du 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Il y a des journées qui sont précises puis qui sont nommées au calendrier de la marche mondiale des femmes à l'international. Il y a vraiment des coordinations internationales, des coordinations nationales. Il y en a par pays. Il y en a par continent, c'est vraiment super organisé comme organisation. Puis au Québec, on a notre propre calendrier, on a notre propre coordination qui s'appelle la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Puis on a une journée qui est célébrée ici, qui est célébrée dans notre calendrier, qui est le 4 octobre, qui est pas dans le calendrier international parce que c'est au Canada.
C'est plus local, oui, c'est ça.
Le 4 octobre, c'est la journée de commémoration des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones assassinées et disparues,
Nous, tantôt. On en parle, mais peut-être qu'il y en a qui en parlent pas assez. Hein?
Oui, tout à fait. Puis la particularité, en fait, c'est que au Canada anglais, il y a pas de groupe qui s'implique dans la Marche mondiale des femmes. Puis c'est vraiment la coordination du Québec qui sont comme super leaders là-dedans. Donc, dans le calendrier, il y avait aujourd'hui, il y avait le 8 mars, premièrement, qui est le lancement de la Marche mondiale des femmes. Le 24 avril, qui est aujourd'hui, la Journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. Il y a... le 4 octobre, qui est pour les femmes autochtones, et le 17 octobre, habituellement, qui est la journée de lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est le calendrier, disons, habituel d'une année de marche mondiale. Cette année, la particularité, c'est que ça va faire 30 ans de la marche du pain et des roses. Donc, on a de nouvelles dates supplémentaires à ce calendrier-là. Donc, Entre le 26 mai et le 4 juin, il y a un comité de la FFQ, un sous-comité de la FFQ, en fait, qui s'est mis en place. Oui, excusez-moi, de la Fédération des femmes du Québec,
ouais.
Qui s'est mis en place un comité du pain et des roses, là, qui invite les gens, en fait, à faire des marches citoyennes féministes entre le 26 mai et le 4 juin, et vraiment à s'organiser là, entre amis, avec des collègues de travail, juste à faire des marches de quartier, et à compter les kilomètres qui vont être parcourus, puis au final, toutes les personnes du Québec qui vont marcher, qui vont compter leurs kilomètres, ben là, ça va faire... un gros boom de kilomètres maximal là, comptabilisé le 7 juin à Québec. Fait que le 7 juin à Québec, il va avoir une marche en après-midi pour souligner justement officiellement les 30 ans de la marche.
Mm-hmm.
Il va avoir les marraines qui étaient là en 95 qui vont être là le 7 juin. Ça va être vraiment l'occasion de faire des rencontres entre différentes générations de féministes.
Mm-hmm.
Donc, nous ici à Sherbrooke, c'est sûr qu'on va se mobiliser pour inciter les gens à faire des marches citoyennes.
Ouais.
On va créer un genre de petits packs là, que les gens ont juste à cliquer puis ils vont avoir tous les outils disponibles. Ça s'en vient, ça va être bientôt prêt. Puis, l'autre particularité de cette année, je te laisserai Marie-Ève en parler.
Absolument. L'autre particularité de cette année, c'est que le 17 octobre tombe un vendredi. Le comité, la coordination nationale a dit, ben on pourrait le mettre un samedi pour retrouver, regrouper le plus de plus gens. Facile. Exactement. Mais c'est pas une date anodine. C'est pas seulement un samedi. Le 18 octobre, c'est l'action nationale de clôture, certes, de la Marche mondiale des femmes cette année. Mais le 18 octobre, c'est la journée nationale de l'affaire personne. Et l'affaire personne, c'est quand les femmes ont été incluses dans les droits de la personne.
Oui.
Donc, l'affaire personne, c'est que la personne n'était pas juste attitrée aux hommes, mais aussi aux femmes.
Oui.
Donc, cette année, dans le fond, le calendrier s'étend jusqu'au 18 octobre.
Effectivement, parce que moi, j'ai connu l'époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte de banque à elles.
Exactement. Ben, mais tu sais, juste, t'sais, t'sais, si je peux
préciser... Je suis vieux, moi, là. Mais c'était épouvantable. Une femme voulait le soin d'un logement, c'était impensable, là.
Mais c'est ça. Puis tu sais, si je peux me préciser un peu plus, tu sais, le 18 octobre 1929, le conseil privé à Londres a annulé une décision de la Cour suprême du Canada et met un terme à un long débat juridique en reconnaissant que les femmes sont des... personnes au sens de la loi et doivent jouir au même titre que les hommes de plein droit civil. Cette décision vient clore une polémique datant de 1918 lorsqu'un avocat comparaissait en Alberta devant la cour de la juge Emily Murphy qui avait considéré ses jugements illégaux car elle n'était pas une personne au sens de la loi, au sens du droit coutumier britannique. Et en leur reconnaissant le statut de personne, le conseil privé aurait également... le conseil privé ouvrait également la porte du Sénat aux femmes. Donc, l'affaire personne, c'est le 18 octobre, c'est grand, c'est beau.
Puis, tu sais, cette information-là est tirée aussi de la ligne du temps de l'histoire des femmes du Québec. Ça, c'est quelque chose qui est disponible en ligne sur le site du réseau, le réseau québécois d'études féministes. Puis, tu sais, des lignes du temps, là, des luttes, les luttes des femmes, les luttes des communautés 2SLGBTQIA+, des lignes du temps, des luttes collectives, communautaires, il y en a plein qui sont en ligne, qui sont importantes, puis qui sont à partager visiter. Le plus possible.
Oui.
C'est des informations que très peu de personnes connaissent.
Effectivement, puis tu sais, l'histoire, comme je disais, ma mère, elle s'appelait Mme Simon-Roy, là. vos grands-mères, vous autres aussi, là. Tu sais, mais il reste que... Mais encore du chemin à faire, quand même, là.
Oui, tout à fait.
On parlait de la lutte... moi, je connais un petit peu le logement, là.
Ouais.
Mais les femmes sont touchées par la crise du logement encore plus que les hommes, au niveau des revenus, tout ça. Il y a encore du travail à faire. Vous n'avez pas fini votre...
Surtout avec le gouvernement qu'on a actuellement, là.
C'est clair.
Lequel des deux, là? Les deux?
Les trois.
Les trois.
Ouais. Les trois.
Ben,
les
ben, trois. Ben, mais juste, j'aime ça, les trois.
Ouais, ouais, je vais juste revenir ouais, sur la marche mondiale parce que, tu sais, j'ai parlé que ça s'est créé, mais j'ai pas dit c'était quoi. Fait que, on peut peut-être dire c'est quoi. Tu sais, la marche mondiale, en fait, c'est vraiment un mouvement international d'action féministe qui rassemble autant des groupes, des organisations de la base, des personnes. Fait que, tu sais, c'est autant des organisations communautaires, ici au Québec, mettons, là, c'est autant des organisations communautaires, des groupes syndicaux, des collectives de citoyennes, etc. Mais tout ce beau monde-là se mobilise vraiment pour l'élimination des causes de la pauvreté, de la violence envers les femmes et de la crise climatique. Mmh. Fait que c'est les trois grands enjeux sur lesquels on se mobilise, ici comme ailleurs. Puis, on met de l'avant vraiment les résistances puis les alternatives qui sont développées par les femmes partout dans le monde, comme ici au Québec. Puis, comme je disais, le mouvement de la Marche mondiale des femmes fonctionne avec un secrétariat international, avec des rencontres internationales aux 3 ans. Tu sais, le grand mouvement est aux 5 ans, mais ça continue là, d'exister entre les années. Puis, c'est vraiment tout le monde est invité à faire des choses dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Fait que faut juste contacter la Coordination du Québec, en fait. Puis, tu sais, toute l'information est accessible sur le site. Tout le monde est bien ouvert. Tu sais, dans le fond, le plus d'actions possibles existent. Le plus de personnes vont se mobiliser. Puis, tu sais, le 18 octobre, c'est l'action de clôture, c'est à Québec.
Ouais.
Puis là, tu sais, présentement, il est probablement déjà trop tard pour réserver un autobus.
OK,
parce que toutes les régions du Québec vont se mobiliser. C'est un heureux problème. Mais c'est un peu une blague, là, mais dans le sens où toutes les régions du Québec vont se mobiliser pour aller à Québec, pour avoir le plus de personnes possible là. Puis nous, on va avoir un autobus. Je sais déjà qu'il y a d'autres groupes communautaires qui vont avoir un autobus. Il va avoir aussi des syndicats qui vont avoir des autobus. Fait que, tu sais, c'est vraiment le temps de regarder ça. Puis si les gens veulent s'inscrire dans... Tantôt, on parlait de l'infolettre. Si les gens veulent s'inscrire dans l'infolettre, il y a des questions par rapport à ça. Si les gens veulent venir à Québec, s'ils veulent réserver leur place déjà, s'ils veulent être recontactés à l'automne. Fait que... voilà, c'est vraiment une expérience à vivre comme féministe. Parce que... c'est même pas, on peut même pas décrire ce qu'on vit comme solidarité féministe dans ces événements-là. C'est vraiment,
c'est enlevant, c'est solidarisant, ça fait un sentiment de sororité puis de puissance puis de, c'est ça, d'empowerment, là, pour prendre le terme anglophone. Ça nous donne vraiment un sentiment d'empuissancement, on se sent plus forte. Il y a quelque chose de très grand. Moi, je l'avais vécu, ma première marche mondiale des femmes a été organisée, à laquelle j'ai assisté, avait été en 2020. Mmh. Et là, la pandémie est arrivée et ça a été... la clôture de la marche avait eu lieu en 2021. Il y avait eu un bus, de la bouffe. T'sais, c'était super, on se revoyait ensemble. Puis c'est vraiment une lutte contre la pauvreté, contre la violence faite aux femmes, pour une justice climatique. Donc, c'est rassembleur, puis... voilà. Puis tu sais, comme tantôt, je parlais de mon expérience en tant que femme, mais si on met bout à bout toutes les histoires de toutes les personnes qui sont marginalisées puis qui sortent du cadre, puis qu'on les entend tous, ces personnes-là, elles ont toutes, ces personnes-là, des histoires qui ont des liens communs et que, notamment, la Marche mondiale des femmes peut avancer des luttes pour toutes ces personnes-là.
Le temps avance très rapidement. Oui. En complétant... moi, quand je vous ai au débat inversé, vous avez entendu, vous m'avez inspiré énormément. Je dis, il faut qu'elle vienne à l'émission, puis vous allez revenir, parce que là, on a juste effleuré le corps du 8e, du 100e. Mais effectivement, les campagnes électorales parlent, on a parlé beaucoup du bonhomme orange de l'autre côté, là.
Mm-hmm.
Mais est-ce que les campagnes électorales parlent de la réalité que vous défendez, vous deux?
La campagne électorale, présentement, défend les droits des personnes travailleuses qui ont du cash, qui ont le droit de s'acheter une maison, qui veulent s'acheter une maison. Donc, on n'est pas représentés. Elles ne nous défendent pas. Donc, la réponse, c'est non. Non. Puis que ce soit municipal, provincial, fédéral, non. Puis on a des revendications quand même assez claires, là.
Marie-Danielle?
Ben, la réponse courte, c'est non. Ça a toujours été non, c'est encore non. Tu sais, je regarde vite fait, pour les personnes qui sont intéressées, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, sur leur page Facebook, ont publié différentes vignettes là, avec différentes questions. Par exemple, que proposent les partis pour mieux protéger les femmes victimes de violences? Puis là, il y a les quatre grands partis avec des extraits de ce qu'ils proposent et leurs revendications, notamment de reconnaître le contrôle coercitif dans le code criminel, ce qui est pas fait. Puis que dans les plateformes des partis, ce n'est pas écrit non plus. Et pourtant, dans la majorité des cas de féminicide, il y avait de la présence de contrôle coercitif. Mmh. C'est prouvé, c'est documenté. Et pourtant, on refuse encore de reconnaître ce contrôle coercitif-là dans le code criminel. Par contre, Pierre Poilievre veut mettre dans le code criminel d'empêcher les gens de tenter. Tenter au sens de mettre une tente sur le bord.
Ça y tente pas.
Là. Ça y tente pas pantoute. Puis tu sais, si on regarde, là, par exemple, une autre question, comment les partis soutiennent-ils les OSBL, les luttes antiracistes, LGBTQ2S+, et contre les discriminations systémiques? Parti libéral du Canada, financement partiel de programmes de lutte à la discrimination. Parti conservateur du Canada, refus de postes antiracisme et s'oppose à la création de postes contre l'islamophobie. Bloc québécois milite pour l'abolition du poste de représentant spécial du Canada chargé de lutte contre l'islamophobie. Et Nouveau Parti démocratique défend les droits LGBTQ2S+, lutte contre les discriminations systémiques et soutien accru au OSBL. Par contre, dans les revendications, ben il y a justement une reconnaissance du rôle des maisons d'hébergement dans la réponse aux violences sexo-spécifiques. Mais plus que ça, moi, je dirais aussi... plus que le fédéral, là, une reconnaissance des centres de femmes.
Ouais.
Parce que quand on parle de violence... Pardon, j'ai pris une gorgée d'eau.
Oui.
On parle toujours des maisons d'hébergement.
Ouais.
Puis, ce qui est très correct, parce que effectivement, les maisons d'hébergement ont besoin de sous, ont besoin de se développer, il y a besoin de maisons d'hébergement, deuxième étape.
Des maisons d'hébergement adaptées aussi pour les personnes en fauteuil roulant.
Oui.
Tu sais, qui ont des particularités, là, des
besoins. Oui, qui sont adaptés, qui sont formés aussi pour accueillir les femmes immigrantes, qui ont des ressources pour faire, justement, de l'accompagnement ou de la traduction, ou, etc. Puis, mm-hmm. tu sais, justement, en Estrie, il y a très peu aussi de maisons, justement, comme tu dis, adaptées. Mais les centres de femmes, c'est le premier lieu où les femmes vont. Puis alors,
malheureusement,
on manque d'argent temps, et on manque de temps.
Et dirait la Marie-Antoinette, les portes... qui des portes. Ben, écoutez, on va...
on reviendra.
Oh, ben, oui. Bien sûr, n'importe quand. Alors, on vous laisse à la programmation habituelle de CFLX, bien sûr, et dans deux semaines, ben, il y aura des élections. On va revenir sur les élections-là bientôt.
Cherchez-nous sur Facebook.
Oui,
sur Facebook.
Pas une pas de, une plus. De plus.
Sherbrooke.
merci à vous deux. Et puis...
Plaisir.
Bonne journée à l'antenne de CFLX, bien sûr.
Il est midi...
58 minutes.
Ici Mark Carney, chef du Parti libéral du Canada. C'est bientôt le moment de voter et il y a vraiment un gros appel, comme le régime canadien de soins dentaires. Avec ce plan, des millions de personnes ont enfin pu voir un dentiste. Pierre Poilievre, le chef conservateur, n'y croit pas, même si des millions de personnes comptent sur ce plan. Mon gouvernement protégera ses soins dentaires.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
What's up, ma gang de fous? C'est le petit rookie, débutant de la vie, votre étudiant infini à CFLX 95.5 FM. Une radio pop pantoute. C'est la séance hip-hop de Sherbrooke. À chaque samedi, de 19h à 21h, c'est un rendez-vous. Vous...
Conditions actuelles, 13 degrés.
C'est Félix 95.5 FM.
Une radio papier culturelle.